VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de ce nouveau numéro du Monde Aujourd'hui. Jacques Aristide avec vous. Nous sommes le lundi 4 juin 2018. À la une ce soir, en RD Congo, fin de la vaccination contre Ebola à Bandaka, 2 semaines après le lancement. Les humanitaires allemands et américains kidnappés au Niger vivants, d'après le président nigérien. Enlèvement d'un pasteur et des membres de sa famille dans le nord du Burkina Faso. À Madagascar, le président nomme un premier ministre de consensus pour sortir le pays de la crise politique.
Cette tâche ne sera pas facile, bien sûr, parce que en ce moment, c'est un peu le bazar. Hein. Comme dit le proverbe malgache, il ne faut jamais siffler avant de sortir de la forêt.
Également dans l'actualité en Afghanistan, attentat meurtrier contre des chefs religieux lors d'un rassemblement pour la paix à Kaboul. Et puis ne manquez pas vos rendez-vous avec l'économie et les sports en fin de journal. En République démocratique du Congo, les autorités sanitaires du pays annoncent lundi la fin de la vaccination contre la maladie à virus Ebola dans la grande ville de Bandaka. D'après le ministère de la Santé, la ceinture de vaccination a été bouclée. Toutes les personnes cibles pour la vaccination, à savoir les professionnels de santé, les contacts des cas confirmés et les contacts des contacts, ont été vaccinés, ajoute-t-il. Depuis le lancement de la vaccination le 21 mai dans la région, 1112 personnes ont été vaccinés, dont 567 à Bandaka, 269 à Bikoro et 276 à Iboko. Le ministère a compté 25 décès sur 53 cas confirmés ou suspects dans son dernier bilan daté du 2 juin. Toujours en RDC, le parc des Virunga, refuge des gorilles de montagne dans l'est du pays, va rester fermé jusqu'à l'année prochaine. En raison de l'insécurité, cette décision fait suite à l'enlèvement de 2 touristes britanniques et de leur chauffeur congolais par un groupe armé il y a 3 semaines et à la mort d'une ranger du parc qui avait tenté de s'interposer. Les 3 otages ont été libérés 2 jours plus tard, mais la direction du parc, qui avait dans un premier temps décidé de suspendre toute activité touristique jusqu'au 4 juin, estimé qu'il n'était pas possible de garantir en l'état la sécurité des visiteurs. Les 2 humanitaires, un Américain et un Allemand, levés récemment au Niger, sont vivants. C'est ce qu'a déclaré ce lundi le président Mahamadou Issoufou en visite à Paris. On continue à créer les conditions de leur libération, dit-il, en ajoutant que les opérations en cours serviront peut-être à parvenir à cet objectif. Il a précisé qu'il était difficile de dire où ils se trouvent, mais il est plus probable qu'ils soient au Mali. Par ailleurs, Mahamadou Issoufou a insisté sur la nécessité de recevoir les fonds pour la force conjointe du G5 Sahel. Il l'a dit lors d'une conférence de presse commune avec son homologue français, Emmanuel Macron, qui lui a aussi appelé les pays ayant promis des contributions à matérialiser leurs engagements. Le président français a toutefois assuré ce lundi que le chemin parcouru par la nouvelle organisation régionale anti-djihadiste était satisfaisant. Ce sur quoi il nous faut accélérer, ce sont les financements internationaux. Je vous le disais en titre, nouveaux enlèvements au Burkina Faso. Un pasteur et 5 autres personnes, dont son fils, ont été enlevés dimanche à leur domicile dans la province du Soum, dans l'extrême nord du pays. Bagassikoura.
Oui, selon les médias locaux, citant des sources sécuritaires et locales, 6 personnes ont été enlevées par une 10aine d'individus armés non identifiés venus en turbané à moto. Le pasteur Pierre Boina, âgé de 55 ans, a été enlevé avec son fils, sa belle-fille et son petit-fils et 2 malades venus pour des prières. Ce rapt intervient 2 semaines après celui de Mathieu Sawadogo, catéchiste de Bassenéré, et son épouse par des hommes armés enturbanés dans la même région, à la frontière avec le Niger et le Mali. C'est dans la même zone qu'Issoufou Souabo, enseignant à l'école primaire de Bouro, a été enlevé le 12 avril 2018. C'est aussi là que a été kidnappé en janvier 2016 le docteur Elliot, médecin australien, qui est toujours retenu en otage par ses ravisseurs, mais son épouse a été libérée après quelques mois de de détention.
Bagassi Koura, merci bien. Au Cameroun, le principal opposant politique anglophone, John Frundi, affirme que le président Paul Biya devrait être poursuivi pour crime contre l'humanité par la communauté internationale pour sa gestion de la crise en zone anglophone. Les anglophones ont besoin de justice d'après John Frundi, qui conteste toujours la version officielle des événements survenus le 25 mai à Menka, là où d'après le porte-parole du gouvernement Issa Chiroma Bakari, 27 terroristes ont été neutralisés et 5 otages tués par les terroristes. À Madagascar, le président Irajonar Mampian a nommé ce lundi un nouveau premier ministre. Il s'agit du haut fonctionnaire international Christian Tsai, qui est désormais chargé de former un gouvernement de consensus pour tenter de sortir le pays de la crise politique. Sa nomination intervient quelques heures à peine après la démission d'Olivier Mahafali Solonandrasan. Le point avec Yakuba Wiraugu.
J'ai nommé Premier ministre Christian Tsai, un homme expérimenté et ayant les compétences pour l'apaisement, a déclaré le président Eri Rajamampian. Un peu plus tôt, Olivier Mahafali Solonandrasan et son gouvernement, en poste depuis 2 ans, ont démissionné. Le nouveau Premier ministre Christian Tsai était jusque-là un haut fonctionnaire à l'Organisation internationale du travail. Il a exercé les fonctions de ministre du Travail de 2002 à 2003, mais n'est membre d'aucun des 3 principaux partis politiques. La Haute Cour constitutionnelle a ordonné il y a 10 jours la nomination d'un nouveau Premier ministre et d'un gouvernement d'union nationale. L'île est secouée depuis plusieurs semaines par une vague de manifestations de l'opposition qui exige le départ du président malgache, accusé de vouloir faire taire ses rivaux à quelques mois des élections générales. Le nouveau Premier ministre doit composer un gouvernement d'union reflétant les résultats des législatives de 2013, comme l'a imposé la Haute Cour constitutionnelle.
En Tunisie, la Marine nationale a repris ses recherches ce lundi au large de la région de Sfax, dans le sud du pays, au lendemain de la mort d'au moins 48 migrants dans le naufrage de leur embarcation. Mais l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. Marie Benson.
68 migrants ont pu être secourus. Alors que les recherches se poursuivent pour essayer de trouver d'éventuels survivants, les conditions climatiques sont difficiles pour les sauveteurs. Selon le ministre de l'Intérieur tunisien, l'embarcation avait été repérée dans la nuit de samedi à dimanche, alors qu'elle était sur le point de couler. Un survivant a affirmé que plus de 180 personnes se trouvaient à bord de l'embarcation, qui ne pouvait contenir que 90 personnes. Seulement 24 corps sur 48 ont été identifiés. Il s'agit de 10 Tunisiens et 14 personnes d'Afrique subsaharienne. Depuis 2017, la migration clandestine s'intensifie en Méditerranée. Les migrants tentent de rejoindre l'Italie pour une vie meilleure. Nombreux perdent la vie en traversant la mer dans des embarcations de fortune, malgré les nombreux moyens déployés pour leur venir en aide.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le cahier international, en Afghanistan, un kamikaze a tué au moins 7 personnes ce lundi à Kaboul, la capitale. L'assaillant a déclenché sa bombe près d'un rassemblement d'imams qui voulaient se prononcer pour la paix et contre le terrorisme. Les détails avec Lionel Gaïma.
L'assaillant s'est présenté à pied, s'est fait exploser devant l'entrée de la tente où se tenait la Loya Jirga, la grande assemblée des milliers d'oulémas venus de 34 provinces afghanes. D'après le porte-parole de la police de Kaboul, Ashmat Stanikzai, 7 personnes ont été tuées, dont un policier et 9 blessés. Le ministère de la Santé parle de 18 blessés. Au moins 3000 religieux ont participé à cette conférence et venaient de décréter une fatwa. Ils ont présenté le contenu du décret religieux en 7 points qui déclarent les attaques suicides et les explosions sont contraires à l'islam et constituent un péché majeur. Les talibans avaient rapidement affirmé qu'ils n'avaient rien à voir avec l'attaque qui a été aussitôt revendiquée par le groupe État islamique.
Au Guatemala, au moins 33 personnes ont été tuées, 46 blessées dans l'éruption hier d'un volcan très actif. Il s'agit d'un nouveau bilan établi après la découverte par les sauveteurs. De nombreux corps calcinés. L'éruption du volcan de feu à 35 km de la capitale a également entraîné l'évacuation de plus de 4500 personnes. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a salué ce lundi les efforts destinés à dépasser les confrontations accomplies par le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui doivent se rencontrer pour un sommet historique le 12 juin. Il s'exprimait en marge d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, après avoir rencontré son homologue chinois Wang Li. Toujours aux États-Unis, victoire pour un pâtissier américain qui avait refusé de faire un gâteau de mariage pour un couple homosexuel. La Cour suprême du pays a rendu un verdict historique en sa faveur ce lundi à la majorité de 7 juges contre 2. Et puis, fils d'un célèbre footballeur brutalement décédé sur le terrain, Marc Fauhé a comparu ce lundi devant la cour d'assises de Lyon en France. Il est accusé de vol avec arme et de séquestration presque 15 jours après le drame qui a marqué son existence. Son père, l'international camerounais Marc Vivien Fauhé, a été foudroyé par une crise cardiaque le 26 juin 2003 alors qu'il disputait la Coupe des Confédérations dans cette même ville de Lyon. Marc Fauhé, 22 ans, reconnaît avoir attaqué un prêtre à Lyon avec son complice présumé de 20 ans à la recherche d'un coffre-fort situé dans le presbytère. Le verdict est prévu mercredi. Voilà donc pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Sans plus tarder, un condensé des nouvelles économiques en Afrique. Il est l'heure de la Minute Éco avec John Lyndon.
20 millions de dollars, c'est le montant du décaissement qui a été approuvé par le Fonds monétaire international au bénéfice du Niger. Ce financement intervient au titre de la facilité élargie de crédit. Cette approbation porte le total des décaissements au titre de l'accord à environ 60 millions de dollars, selon le FMI qui vient d'achever la deuxième revue du programme économique et financier du pays. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a lancé hier à Lukishar, dans le nord-ouest du pays, un programme pilote destiné à l'exportation du pétrole brut. Ce programme biannuel prévoit l'acheminement de quelques 2000 barils par jour par camion vers le port de Mombasa, depuis les puits de pétrole situés dans le nord-ouest du Kenya. Les réserves de pétrole au Kenya sont estimées à 560 millions de barils. La filiale marocaine du géant français de l'alimentaire Danone, qui fait face depuis 6 semaines à une campagne inédite de boycott au Maroc, a annoncé lundi s'attendre à une baisse d'environ 20% de son chiffre d'affaires.
Et maintenant, tour d'horizon de l'actualité sportive, nous retrouvons Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
À 10 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde, les équipes africaines dévoilent leur liste des 23 joueurs retenus pour le tournoi. Et l'espoir renaît pour Salah.
Oui, l'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, blessé lors de la finale de la Ligue des Champions le 26 mai dernier. Il figure dans la liste des 23 Égyptiens sélectionnés pour ce mondial. Salah, dont la participation était incertaine en raison de cette blessure à l'épaule ayant entraîné une indisponibilité de 3 semaines, il devrait donc pouvoir disputer cette Coupe du Monde. C'est ce qu'annonce en tout cas la fédération égyptienne. Mohamed Salah, lui, est actuellement en convalescence en Espagne. Aux côtés de Mohamed Salah, on retrouve le légendaire gardien Essam El Hadary. Il sera, tenez-vous bien, à 45 ans. Le plus vieux joueur à disputer une Coupe du Monde. Les Pharaons démarrent leur mondial dans le groupe A. Ce sera le 15 juin contre l'Uruguay avant d'affronter le pays organisateur le 19 juin, la Russie, et enfin l'Arabie Saoudite le 25 juin.
On connaît également la liste finale pour le Maroc.
Oui, le sélectionneur Hervé Renard a logiquement appelé Mehdi Benatia et Younes Belhanda dans la liste finale des 23 joueurs des Lions de l'Atlas retenus pour ce mondial, où figure également Malaga Youssef En-Nesyri, réserviste dans la première liste. L'attaquant de 21 ans intègre le groupe définitif à la place du défenseur Badr Bedoun, 24 ans. Il évolue au Raja Casablanca. Le Maroc qui évoluera dans un groupe terrible, le groupe B, lors de cette Coupe du Monde, avec l'Espagne, championne du monde 2010, le Portugal, champion d'Europe en titre, et l'Iran. La dernière participation des Marocains à une Coupe du Monde, c'était il y a 20 ans en France, en 1998.
Tennis, Roland-Garros, ça passe pour Nadal.
Le décuple vainqueur de Roland-Garros, Rafael Nadal, s'est qualifié pour les quarts de finale en écartant l'Allemand Maximilian Marterer en 3-7, 6-3, 6-2, 7-6. En quart de finale, Nadal affrontera l'Argentin Diego Schwartzmann, tombeur en 5-7 du Sud-Africain Kevin Anderson, après avoir été mené de 7-0.
Serena Williams, forfait pour la suite du tournoi.
OLX numéro 1 mondial Serena Williams a déclaré forfait avant le choc prévu face à Maria Sharapova lors des huitièmes de finale de ce tournoi, et ce en raison d'un problème pectoral. C'est ce qu'annonce en conférence de presse l'américaine âgée de 36 ans.
Et puis en NBA, Nicolas, Golden State se rapproche d'un nouveau titre.
Avec son adresse diabolique à 3 points, Stephen Curry a terrassé Cleveland. Victoire hier soir des Warriors 122 à 103 grâce à notamment 33 points de Stephen Curry. Golden State n'est plus qu'à 2 victoires d'un troisième titre en 4 ans en NBA.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant de passer à notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Mille merci pour votre fidélité à VOA Afrique. En Côte d'Ivoire, le président n'exclut pas un troisième mandat. Alassane Ouattara, dont le deuxième s'achève en 2020, estime que les mandats effectués avant le changement de constitution de 2016 ne comptent pas. L'opposition ivoirienne n'a pas tardé à réagir en affirmant que cette idée du chef de l'État est anticonstitutionnelle, inacceptable et irréalisable, y voyant même une provocation. Pour une analyse, Morgane Guériec a joint le politologue André Silver-Connor. Nous l'écoutons.
C'est un discours politique du président qui ne cadre pas avec la réalité juridique. Effectivement, il y a une nouvelle constitution qui a été adoptée en 2016, alors que lui, il a été élu en 2015. La disposition sur la limitation des mandats n'a pas changé entre les constitutions de 2000 et 2016. N'ayant pas une norme nouvelle, cette norme donc de la limitation des mandats touche le président actuel.
Mais lui, il dit que ces élections de 2010 et 2015 ne compte pas.
Si ces élections ne comptent pas, sur quelle base ils gouvernent actuellement? Il y a dans le vote d'une constitution ce qu'on appelle la lettre et l'esprit. Dans l'esprit, avant l'adoption de la nouvelle constitution en 2015, le président Alassane Ouattara s'était clairement exprimé dans le sens qu'il n'était pas intéressé par un troisième mandat et que la disposition précise sur la limitation des mandats ne serait pas concernée par la nouvelle constitution. Les électeurs sont partis dans les urnes dans l'esprit que la limitation était fixe pour lui, aussi bien pour tous ceux qui avaient déjà un mandat en Côte d'Ivoire. La disposition sur la limitation des mandats n'a pas changé du tout. Et de ce fait, il n'y a aucune rétroactivité qui s'impose là.
Des observateurs estiment qu'il utilise la menace de se représenter pour faire taire les querelles au sein de son camp concernant sa succession. Est-ce que c'est votre avis?
Je pense qu'il utilise cela, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne méthode. Et ce ne sont certainement pas ces déclarations de M. Ouattara qui empêchent M. Soro d'être en pré-campagne. Et donc, moi, je dis, ce sont des intentions qu'on lui prête. Mais à la lettre, c'est qu'il affirme aujourd'hui qu'il peut être candidat.
Alors, Alassane Ouattara affirme que la stabilité et la paix passent avant tout. Quel pourrait être l'impact d'un troisième mandat sur la stabilité du pays?
Ça va être la porte ouverte à une crise sociale, politique et économique grave. Peut-être pas dans l'envergure de celle que nous avons connue en 2010, mais ce sera la plus grave crise après la crise post-électorale que la Côte d'Ivoire a connue en 2010. Pour la stabilité, pour la paix, pour la continuité de l'État, la meilleure chose pour lui, c'est de ne pas se présenter contre vents et marées, contre l'avis de la Constitution et contre l'avis d'une certaine partie de la population.
On écoutait l'analyste politique ivoirien André Silver Conan.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler que Le Monde au féminin, c'est à 19h05, temps universel, ce mardi, juste après les nouvelles. Nous parlerons de l'application et de l'applicabilité des sanctions internationales pour viol de masse en temps de guerre ou en zone d'insécurité avec Sophie Huvet, chercheuse en droit international à l'Institut Georgetown pour les femmes, la paix et la sécurité ici à Washington. Le Monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook le mardi. À très bientôt.
Cap de nouveau sur Madagascar, le président Irajonar Mampian a nommé Christian Tsai comme nouveau premier ministre. La Cour constitutionnelle avait donné une semaine au président malgache pour nommer un nouveau gouvernement de consensus. Le pays est plongé dans une crise depuis plusieurs semaines. Qui est le nouveau chef du gouvernement malgache? Idriss Fall a joint à Antananarive notre confrère Randy Doni. Nous l'écoutons.
Le nouveau premier ministre s'appelle Christian Tsai. Il vient du nord de l'île, plus précisément de la ville d'Ambiloubé. Il était déjà ministre du tourisme. Et puis, il est aussi apparenté au temps du président Ravalomanana. Une ministre qui s'appelle Manuruanta Cecile, c'est le frère de Manuruanta Cecile, qui était déjà ministre de l'enseignement supérieur et ministre de la défense au temps de Ravalomanana. Disons qu'il n'est pas très connu du grand public. C'est un technicien assez apprécié. Il était le représentant du Bureau international du travail pour l'océan Indien. En 2016, il a obtenu le prix du leadership. Avant cela aussi, il était directeur général de Secren, le chantier de construction navale à Diego Suarez. Il était aussi directeur général de la Solima, c'est-à-dire l'ancien organisme qui s'occupait du pétrole à Madagascar. Donc, bref, c'est quelqu'un qui a déjà une assez longue carrière, mais n'est pas très, très connu sur le milieu politique.
Justement, comme il n'est pas connu sur le milieu politique, on lui demande de former un gouvernement d'union. Est-ce que sa tâche sera facile?
Je veux dire, il n'est pas très connu du milieu public. Mais il est connu du milieu politique en tant que technicien. Alors sa tâche, ceci dit, sa tâche ne sera pas facile, bien sûr, parce que en ce moment, c'est un peu le bazar, hein, donc tout le monde veut avoir sa part du gâteau. Ceux qui sont en grève, l'opposition au 13 mai, qui dit, nous, on est la majorité, donc on veut avoir la majorité aussi, donc au sein du gouvernement. Et puis ceux qui sont avec le président actuel, Irajonar Mampian, qui veulent aussi garder leur... Mais avant tout ça, il faut dire que quand la nomination a été faite, le président Irajonar Mampian a dit que c'est le fruit d'un consensus. Alors qu'en ce moment, on se demande encore un peu, est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que apparemment, la base, hein, les militants de base du 13 mai, c'est la place où les grévistes se réunissent quotidiennement, apparemment, ils ne sont pas très au courant du nom. Donc, est-ce que c'est un consensus décidé en haut lieu? Il y en a qui parlent de fortune, mais je ne crois pas trop. Hein.
Donc c'est dire qu'en fait, Madagascar n'est pas encore totalement sorti de la crise depuis plusieurs mois alors.
Comme dit le proverbe malgache, il ne faut jamais siffler avant de sortir de la forêt. C'est un proverbe malgache. Alors, on est encore dans la forêt. On commence à percevoir la lumière du jour, la clairière, mais il ne faut pas encore siffler, il faut encore attendre. En ce moment même, les dirigeants du MAPAR, c'est-à-dire ceux qui sont avec le président de la transition, André Duel, ils sont en conclave maintenant. On ne sait pas trop ce qui va en sortir. Donc, on attend un peu, disons, on va attendre demain, parce que tous les jours, il y a la grève, il y a le meeting sur la place du 13 mai. Donc, c'est là, certainement, qu'on va savoir leur réaction, ce qu'ils en pensent.
C'était le journaliste Randy Doni. Il intervenait dans Antananarive, la capitale malgache.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Un dernier sujet dans notre segment magazine, et pour cela, nous allons au Niger. Les musulmans du pays observent depuis 20 jours le jeûne du mois de Ramadan. Dans ce pays laïque, à plus de 90% musulmans, ne pas jeûner sans raison valable et parfois mal perçu. Notre correspondant Abdulrazak Drissa nous plonge dans l'univers des non-jeûneurs à travers ce reportage.
Ils sont rares ceux qui osent parler au micro du sujet. Ne pas jeûner dans un mois béni de Ramadan dans une société fortement islamisée. Ces quelques-uns rencontrés dans un quartier populaire de Niamey ne s'en cachent toutefois pas outre mesure.
Je ne gêne pas vraiment. On est ensemble, tous on est ici ensemble. Les amis, des grands frères, des petits frères comme ça, on travaille ensemble. Mais c'est que je ne gêne pas. Voilà, ça ne fait rien.
Je suis un musulman de père et mère. Je ne fais pas le jeûne. Je n'ai pas caché à mon bon Dieu. Pourquoi je vais avoir honte de quelqu'un parce que je ne fais pas le jeûne? Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent.
Si, pour ces deux jeunes adolescents, il n'y a pas de raison apparente pour justifier le fait pour eux de ne pas observer le mois de jeûne, D'autres, par contre, ont de solides justificatifs.
Moi, je n'ai pas une femme. Mais en plus, je suis un buveur. Tu vois, je suis à chaque fois avec le buveur, de matin jusqu'à la nuit. Et c'est moi le transporteur international en cours de l'alcool. Voilà, c'est pour cela que vraiment je ne prends pas le carême. Ça fait 38 ans de cela, moi je ne fais pas carême.
Cette jeune dame justifie sa décision de ne pas observer le jeûne du mois béni de Ramadan par sa pauvreté. Elle ne se préoccupe pas de ce que vont penser les autres. Pourtant, aucune de ces raisons ne sont celles prévues par la religion pour qu'un musulman soit dispensé du jeûne du mois béni de Ramadan, comme l'explique le prédicateur Ismaël Mohamed.
Ce sont d'abord les gens qui sont frappés d'un âge très très avancé, qui ne peuvent pas supporter la faim. Il y a également des gens qui sont malades. Cliniquement, ils sont malades, c'est à peine même s'ils peuvent manger, même s'ils étaient hors du mois de Ramadan. Maintenant, il y a cette dispense qui est accordée également aux voyageurs. Une femme qui est en état de menstrue, elle ne peut pas gêner. Il y a également ces femmes qui sont en couche très fraîche.
Avec des raisons justifiées ou pas, les non-jeûneurs sont plutôt bien acceptés dans la société nigérienne. Abdulrazak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
5, 6, 7, 8, 9. Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et voilà, madame, mademoiselle, monsieur, point final à ce numéro du Monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Joselle Morissa. C'était notre ami Journiak Wojtek à la technique. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous encore une fois ce soir. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Je vous souhaite une excellente soirée sur VOA Afrique. À très bientôt. Take care.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wenpanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis ont officiellement transféré le 14 mai leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, capitale d'Israël. En déplaçant notre ambassade à Jérusalem, nous avons prouvé au monde, une fois de plus, que l'on peut faire confiance aux États-Unis, a déclaré le conseiller spécial du président Trump, Jared Kushner. Nous nous tenons aux côtés de nos amis et de nos alliés, et plus que tout, nous avons montré que les États-Unis d'Amérique font ce qui est juste, et nous l'avons fait, a-t-il ajouté. En prenant cette mesure, a dit M. Kushner, les États-Unis ont choisi de renforcer les liens entre les États-Unis et Israël. Ces liens ont été forgés à travers une histoire partagée, des intérêts partagés et immortalisés à travers des principes partagés. Les États-Unis soutiennent aux côtés d'Israël parce que les deux pays croient aux droits humains. Nous nous tenons ensemble parce que nous croyons que la démocratie mérite d'être défendue. Et les États-Unis soutiennent aux côtés d'Israël parce que nous pensons et savons que cela est juste, a déclaré M. Kushner. Israël prouve chaque jour la puissance illimitée de la liberté. Cette terre est la seule au Moyen-Orient où juifs, musulmans et chrétiens et des gens de toute confession religieuse peuvent vivre et prier conformément à leurs croyances, a dit M. Kouchner. Les États-Unis demeurent engagés pour une paix durable et sont prêts à soutenir un accord de paix de toutes les manières qu'ils peuvent, a déclaré M. Kouchner. Nous croyons qu'il est possible pour les deux camps d'obtenir plus qu'ils ne concèdent afin que tous les gens puissent vivre en paix, à l'abri du danger, libres de toute peur et à même de poursuivre leurs rêves. Les États-Unis reconnaissent que la question de Jérusalem est délicate et continuent d'appeler toutes les parties à maintenir le statu quo concernant les lieux saints de cette ville. Alors qu'Israël entame la 701e année de son existence, une nouvelle page est tournée dans la quête d'une paix durable, a déclaré M. Kouchner. Je pense que la paix est à portée de main si nous osons croire que l'avenir sera différent du passé, a dit M. Kouchner. Le chemin ne sera pas difficile, sera marqué par des moments et des décisions difficiles. Mais si nous avons des grands rêves, si nous menons avec courage, nous pouvons changer des trajectoires des millions de personnes passant du désespoir à l'espoir sans limite.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.